Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter la faute.
Des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les sous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Il y a eu info.
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2h, je suis chômeur.
Bonsoir, vous êtes bien sur le Canu Info du lundi 29 janvier 2024 et on va vous annoncer les titres.
Oui, à l'international, on va parler ce soir de la grève générale en Argentine avant de faire un petit point sur la situation à Gaza.
Au national, on vous parlera de la censure de la partielle de la loi immigration, puis du ventre des femmes qui est encore au cœur d'une polémique de merde. Et enfin, on parlera d'un parloir sauvage au centre de rétention à Paris qui a mal tourné.
Et au local, on parlera de la crise à Franprix et du lobbyiste de la FNSEA qui est conseiller de Wauquiez.
Et on terminera par une interview d'un camarade de la Confédération paysanne.
Et on commence tout de suite avec la citation de la semaine. L'école doit être un lieu de partage, d'apprentissage des différences. Alors je vous laisse deviner qui a dit ça, hein. Bah, c'est Amélie Oudéa-Castéra, encore
ah, mais
elle.
Mais oui, bien sûr.
C'était lors d'une matinée de sensibilisation à la Cité Rodin à Paris, organisée à l'occasion de la première journée nationale contre le sexisme. Et donc, rappelons la ministre de l'Éducation qui scolarise elle-même ses enfants en classe non mixte à Stanislas, établissement privé très conservateur.
Et
on
puis
a
on
n'a pas fini de parler d'elle, je pense.
C'est clair. On espère d'ailleurs qu'elle va bientôt démissionner. On enchaîne tout de suite avec les brèves. Alors, pour commencer, après les 700 euros des sénateurs et des sénatrices ce mercredi 24 janvier, le bureau de l'Assemblée nationale a acté l'augmentation de 300 euros de l'AFL.
De nos salaires.
De l'avance sur frais de mandat pour l'ensemble des députés. Alors l'avance des frais de mandat, ça concerne les déplacements, l'hébergement, la restauration. Donc il passe de 5 645 euros à 5 950 euros, en plus des 7 493 euros mensuels d'indemnité qui étaient déjà issus d'une augmentation de 200 euros en 2022. Vous suivez tout ça, donc justifié par l'inflation et voté quand même au bureau de l'Assemblée nationale, de Renaissance au Rassemblement National, la LFI s'étant abstenue et le PS étant absent, ils n'ont pas voté. Voilà, donc nous aussi, on veut bien 300 balles de plus, hein, pas de problème.
On les prend.
Et on continue avec les brèves, avec la RATP qui censure l'affiche du nouveau spectacle de l'humoriste Walidia, connu pour ses chroniques politiques bien senties, notamment sur France Inter. Donc sur cette affiche, qui devait figurer dans les couloirs des métros et RER parisiens, on voit le visage de Walidia tatoué de plusieurs phrases. Celle qui pose problème à la RATP, c'est « Je suis comme l'IGPN, je ne suis pas là pour faire le procès des policiers ». Et la deuxième, il est quand même drôle. Hein. Macron, c'est comme un père alcoolique. À la maison, il te pourrit la vie. Dehors, il te fout la honte. La RATP invoque donc ses conditions générales de vente qui l'empêchent d'afficher tout message présentant un caractère politique, disant que le visuel présente un caractère politique incompatible avec le devoir de neutralité qui s'impose dans les transports publics et pourrait être considéré comme diffamatoire ou injurieuse. Elle a proposé donc à Walidia de retirer de l'affiche les deux phrases problématiques, ce qu'il a refusé. À la place, il a publié sur Twitter, nouvellement X, une nouvelle version de son affiche où son spectacle est rebaptisé « Une heure en retard » et où il s'est ajouté un tatouage « I love Castex ». Et oui, parce que le PDG de la RATP, c'est Jean Castex. Décidément, la Macronie a de moins en moins d'humour.
Et pour continuer sur la neutralité, c'est le comité éthique du journal Le Monde qui a fort à faire en ce moment, hein, puisqu'un journaliste a reçu un rappel des règles déontologiques en raison de ses relations avec le PSG et la chef de service politique Ivan Trippenbach qui a été contrainte de démissionner ce samedi puisqu'elle est la compagne d'un conseiller de Gabriel Attal. Mais pas d'inquiétude pour le gouvernement, hein, les chiens de garde du capitalisme sont encore nombreux dans les médias.
Encore de bien belles nouvelles, alors on va tout de suite passer à
International.
Et on va tout de suite du côté de l'Argentine où il y a eu une grosse grève.
Oui, alors c'est
une grève.
Ah non, une très très grosse grève, grève massive. Elle a eu lieu donc là, on m'entend ?
Ouais. Oui.
Elle a eu lieu donc mercredi 24 janvier. Il y a eu une grève donc impressionnante dans toute l'Argentine contre le pouvoir en place et les mesures imposées par Javier Milei. Alors on le rappelle, hein, juste après son élection fin novembre, cette espèce de fou fascisant et partisan d'une économie ultra libérale a annoncé via un méga décret qu'on appelle le DNU, donc sans aucune discussion ni validation parlementaire, une sorte de 49-3 mais à la sauce argentine, beaucoup de choses dont la dérégulation et des licenciements massifs chez les fonctionnaires, un protocole répressif sans précédent contre le droit à manifester et le mouvement social en général, et les prémices d'une loi dite omnibus dont l'objectif est, je le cite lui, hein, donner le coup de grâce aux travailleurs. Alors pour que cette loi elle passe au Parlement, Milei a tenté depuis déjà deux semaines par des tractations secrètes de rallier les voix des députés de droite issus du péronisme dit fédéral, je rentre pas dans les détails, en tout cas totalement en dehors des cadres légaux parlementaires. Son parti, la Libertad Avanza, n'a que 38 voix au Parlement. Il lui en manque donc 91 pour faire passer cette loi, dont l'objectif est d'octroyer les quasi plein pouvoir au président et privatiser massivement des pans entiers des services publics argentins.
Liberalismo Avanza, non ?
Si. Bref, les raisons sont nombreuses pour faire grève. Alors, dès minuit ce mardi dernier, hein, la plupart des vols étaient annulés dans les aéroports. Les chaînes de production des grands constructeurs automobiles étaient à l'arrêt. Idem pour les ouvriers du pneumatique, de l'agroalimentaire, des centres d'appel. Les grèves ont aussi été fortes dans le secteur des compagnies pétrolières, les usines de sidérurgie, les ports, l'aéronautique et chez les fonctionnaires dans l'ensemble de la fonction publique. C'est dans la métropole de Buenos Aires que la grève a été la plus puissante et les manifestations les plus massives. La CGT argentine parle quand même de 500 000 personnes dans la capitale. Bref, un raz-de-marée social. Alors on le sait, et d'ailleurs en Argentine comme ailleurs, on connaît la responsabilité des bureaucraties syndicales là-dedans. Une journée de grève de 24 heures n'est largement pas suffisante, surtout pour faire plier un taré comme Milei. Mais c'est un signe qu'une bonne partie des travailleurs et des travailleuses et de la société argentine ne va pas rester se faire massacrer en fermant les yeux. On leur souhaite bon courage et on vous tient au courant des suites de cette mobilisation.
Et toujours à l'international, on fait un petit point sur la situation à Gaza.
Ouais, la guerre coloniale menée par Israël contre la bande de Gaza se poursuit malgré la décision de la Cour internationale de justice d'ordonner à Israël d'empêcher un génocide à Gaza. Pour l'instant, cette décision n'a eu aucun effet sur la violence des frappes contre les Palestiniens et les Palestiniennes. Au contraire, l'offensive militaire a encore redoublé d'intensité. D'ailleurs, après l'invasion massive du nord de Gaza et puis l'offensive au sud, le gouvernement israélien a annoncé la transition vers une troisième phase, accompagnée d'un désengagement partiel d'une partie des forces mobilisées au nord. Cette démobilisation très relative s'explique notamment par l'aggravation des tensions à la frontière libanaise et la menace donc d'un deuxième front, mais aussi par une opération de com' tout simplement pour entretenir l'illusion d'une guerre victorieuse. L'intensité de la guerre n'est pas retombée. La nature des combats a un peu évolué, impliquant désormais beaucoup plus d'affrontements directs entre soldats israéliens et combattants du Hamas, là où il y avait avant beaucoup plus de bombardements. C'est le cas notamment dans le sud, à Khan Younes, où les chars israéliens ont pilonné la zone autour de deux principaux hôpitaux de la ville, Nasser et Al-Amal. ils ont aussi pilonné les camps réfugiés à l'ouest. À l'intérieur de l'hôpital Al-Amal, ce sont 350 patients et patientes et 5000 personnes déplacées qui vivent dans la terreur d'un état de siège. Tandis que plus au sud, à Rafah, des milliers de personnes sont coincées désormais derrière la frontière égyptienne, toujours fermée. S'ajoutent à cela des conditions climatiques terribles avec des pluies diluviennes qui ont inondé les camps des déplacés, rendant la situation encore plus invivable, si c'est possible. La Cour internationale de justice, donc, saisie à la suite d'une plainte de l'Afrique du Sud pour génocide, a beau reconnaître, je cite, « le risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé aux Palestiniens de Gaza », rien n'y fait. La victoire idéologique est certes importante et à relever, mais elle ne suffira pas, loin de là, à mettre fin à l'offensive israélienne. D'autant plus que la Cour a rejeté l'appel au cessez-le-feu. D'ailleurs, cette décision ne concerne pas le fond de l'affaire, à savoir si Israël est oui ou non coupable de pratiques génocidaires, mais seulement les mesures conservatoires d'urgence demandées par l'Afrique du Sud. Le massacre se poursuit donc sous les yeux complices de l'Occident impérialiste, complice car, pour rappel, la France vend toujours ses armes à l'armée sioniste. Depuis l'attaque du Hamas, pour finir, on rappelle, il y a eu environ 1140 morts en Israël, majoritairement des civils. Et le décompte de l'AFP sur la bande de Gaza, il y aurait eu 26 257 morts palestiniens palestiniennes et 60 000 blessés, en plus de 1,9 million de déplacés. C'est voilà le triste décompte où on en est. Et nous, on dit Palestine vivra, Palestine vaincra.
Ouais, et on va faire une première pause musicale avec un petit son d'Anna Tirou, qui est une rappeuse franco-colombienne, féministe, anticapitaliste, et ce titre, c'est La Bala.
La pistola lo miraba fijamente bajo el mantelillo cromo de su veneno. Un disparo repentino penetró cada partícula del aire, luego se cayó. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Por la sien. La muerte lo miró de forma desafiante, con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante. La bala entre tanto suspendida fija, bailaba un asesinato girando sobre sí misma. Se perdió de vista la vida con su pista, mientras joven padece ante el deceso su conquista. El suelo, de rodillas su peso, cambia lentamente del rojo al hielo.
Angelitos de papel, se han perdido por Babel. ¿Quién devolverá esta piel? La madre le suplica al coronel. La muerte y su carrusel, fúnebre de su vaivén. Un juicio final cruel, el ángel le suplica al coronel. Bom, 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 bom. Su mirada quedó congelada por el súbito sonido pulsante que lo valió. Hombre desplomado, desangrado, sin aliento, quedó pálida, la vida le falló. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Por la sien.
Aquel cuerpo sin vida era su hijo. María estupefacta cayó al piso, su rostro deformado se convirtió en un grito. Quedó un solo zumbido, significaba la hora del deceso, marcada por un beso de labios de la madre perdida en desconsuelo. Hizo llover el cielo, lágrimas del desierto, y hasta la muerte se quedó callada por respeto.
Angelitos de papel se han perdido por Babel. ¿Quién devolverá esta piel? La madre le suplica al coronel. La muerte y su carrusel, fúnebre de su vaivén. Un juicio final cruel, el ángel le suplica al coronel. Bom, 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 bom,
toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est le Canu Info du lundi 29 janvier. Et vous venez d'écouter Anna Tirou ou Anna Tijou, en fonction de la prononciation. Et son titre, c'était La Bala. Et on va passer de suite au...
National.
Et donc, on commence un sujet au national par la loi immigration qui a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, mais dont il reste quand même pas mal de trucs bien crades et bien racistes.
Et oui, dans une décision du 25 janvier, assez attendue, le Conseil constitutionnel a censuré plus d'un tiers de la loi immigration, donc 32 articles. Même si on peut se réjouir que ça ait abouti à la suppression de 32 articles infâmes rajoutés par les Républicains et le RN, comme la fixation de quotas migratoires, le durcissement du regroupement familial, l'instauration de la préférence nationale pour les allocations familiales, ou la fin de l'automaticité du droit du sol pour les étrangers qui sont nés et ont grandi en France, le problème de cette censure du Conseil constitutionnel, c'est qu'elle n'est quasiment jamais sur le fond, mais sur de la procédure constitutionnelle. Enfin, ça, c'est un des premiers problèmes. Donc en gros, le Conseil constitutionnel ne se mouille pas du tout sur la conformité des propositions d'extrême droite ou de droite extrême avec la Constitution. Par exemple, sur la préférence nationale pour les allocations, il ne dit pas que c'est contraire au principe d'égalité, il se contente de dire que l'article ajouté n'a pas de rapport avec le projet initialement proposé au Sénat, ce qui n'est pas conforme à un article de procédure constitutionnelle et ce qui permet de censurer. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que vaut le fameux rempart constitutionnel auquel certains s'accrochent si une loi du même acabit est de nouveau présentée en bonne et due forme d'un point de vue procédure. Deuxième problème, le Conseil constitutionnel offre à Darmanin et à la Macronie une sortie de crise sur un plateau. Au final, ce qui reste de cette loi, c'est presque l'intégralité du projet initial de Darmanin, avec son obsession de l'éloignement et de la criminalisation des étrangers, et sa conception de l'intégration par la sanction. Après le passage de la réforme des retraites au 49-3, c'est donc un nouveau passage en force réussi de la Macronie pour un projet de loi qui aurait dû être retiré parce qu'il n'avait aucune majorité, ni à sa gauche, ni à sa droite. Cette nouvelle loi immigration, promulguée dans la foulée par Macron le 27 janvier, prévoit donc plein effectivement de dispositions bien racistes et bien dégueulasses, comme il a été annoncé, notamment la diminution des protections contre l'éloignement pour les étrangers condamnés ayant leur vie privée et familiale en France, une hausse des niveaux de français à atteindre pour sortir de l'enfer des cartes à renouveler chaque année, niveau A2 pour la carte pluriannuelle, niveau B1 pour la carte de 10 ans, niveau B2 pour la naturalisation, l'impossibilité de renouveler une carte d'un an plus de 3 fois de suite pour le même motif. Autrement dit, si tu n'atteins pas le niveau de français A2 écrit et oral, tu n'auras plus de carte de séjour. La création d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République, avec possibilité de non-délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait, si l'étranger refuse d'y souscrire ou si son comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Sans qu'on sache vraiment par qui et comment ce comportement va être évalué, on compte sur la préfecture pour être objective. La possibilité de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour en cas d'une OQTF précédemment non exécutée est aussi dans cette loi. Aussi pour certaines condamnations pénales, notamment pour usage de faux, alors que de nombreux travailleurs et travailleuses sans papiers sont obligés de travailler avec de fausses cartes pour pouvoir survivre. Il y a aussi une extension des possibilités d'assignation à résidence, de leur durée, une extension des possibilités de placement en rétention, le fichage des mineurs non accompagnés et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et la fin de l'obligation d'octroi d'un contrat jeune majeur par le département lorsqu'un jeune étranger a reçu une OQTF. Il y a aussi la clôture automatique de la demande d'asile en cas d'abandon d'hébergement, la systématisation du juge unique à la Cour nationale du droit d'asile, et plein d'autres mesures qui restreignent encore plus le peu de droits des étrangers en rétention ou en zone d'attente. Par exemple, le recours à la visio pour les audiences devant le tribunal administratif et le juge des libertés et de la détention. Ce qu'il reste du côté « être gentil avec les gentils » de la loi annoncée par Darmanin, c'est la création d'un titre de séjour discrétionnaire au bon vouloir des préfets à partir de 3 ans de présence en France et 12 mois de travail dans un métier en tension sur les 24 derniers mois. Côté mobilisation, après tout le cirque parlementaire et gouvernemental organisé autour du vote de la loi, il est peu probable que l'intersyndicale qui avait commencé à se mobiliser en large manifestation le 21 janvier continue à le faire, considérant qu'on a échappé au pire avec la censure du Conseil constitutionnel. Mais les organisations qui se mobilisent depuis un an et demi contre la loi Darmanin, avec en première ligne les collectifs de sans-papier, ne baissent pas les bras et appellent à une manifestation nationale pour l'abrogation entière de la loi Darmanin le 3 février. À Lyon, le rendez-vous est à 14h30, place Bellecour.
Et on enchaîne avec un sujet, alors je cite ce qui est écrit sur le ventre, des femmes encore au cœur d'un débat politique de merde.
Et oui, depuis quelques semaines, Macron mène campagne sur l'utérus des femmes que le patriarcat, une fois n'est pas coutume, voudrait bien contrôler un petit peu mieux. Alors dans le clan Macron, on déclare vouloir créer, je cite, un effet signal pour dire aux jeunes, ne vous posez pas la question à 35 ans. Une bien belle campagne dite de réarmement démographique. Et oui, parce que ça va mal la démographie en France. Alors au cas où on n'ait pas bien compris le concept, il a employé le terme réarmement 8 fois lors de sa conférence de presse du 16 janvier. On se doute donc que le mot n'est pas choisi au hasard. Il se veut martial et grave. C'est la guerre et c'est la guerre dans nos ventres. Les femmes doivent vite, vite produire des armes pour la nation, à savoir des enfants et plus exactement de la chair à canon. Depuis la fin du 19e siècle et la mise en place par les États modernes d'outils de contrôle de la fécondité et de la natalité, les gouvernements évaluent leurs besoins en main-d'œuvre, en soldats, dans les villes, dans les campagnes, et demandent donc gentiment, enfin, ou pas d'ailleurs, aux femmes de produire alternativement de la chair à canon ou de la chair à patron. Alors on pensait qu'en 2024, le président de la République ne désignerait pas nos utérus comme des usines à fabriquer des combattants pour la patrie. Mais bon, si, en fait, visiblement, c'est complètement OK. Alors, ces politiques natalistes dans l'histoire, elles sont toujours faites, effectivement, de tout un tas d'aides que Macron a annoncées pour les femmes qui souhaiteraient enfanter, sans prendre en compte les besoins réels de ces dernières, puisque ces mesures sont en réalité résolument antiféministes. Elles se fondent sur une pensée réactionnaire antiféministe et militariste. On ne serait pas tellement étonné que Macron attaque l'avortement, cet acte hautement antipatriotique. Et puis, comme bien souvent dans les politiques natalistes, hein, ce qui nous fait gerber de notre côté, c'est que le gouvernement choisit toujours quelles femmes sont dignes de réarmer la France et quelles femmes devraient plutôt s'en abstenir. Il y a quelques mois, un peu avant l'opération Wambushu à Mayotte, le patron de l'ARS de Mayotte annonçait que des ligatures des trompes seraient proposées aux jeunes femmes qui se présenteraient à l'hôpital. L'histoire coloniale est pleine de ces immondes récits. Françoise Vergès l'a largement documenté. C'est donc le réarmement à géographie variable. Nos utérus ne sont pas vos champs de bataille. On ne préparera qu'une armée de réserve féministe prête à en découdre avec le patriarcat.
Et pour finir au national, on va vous parler d'un parloir sauvage qui a mal tourné à Paris.
Oui, ça commence la semaine dernière au centre de rétention administrative de Vincennes. Des policiers bien éméchés sont entrés dans les chambres des retenus au milieu de la nuit pour tabasser des gens. Donc je vous lis un mini extrait d'un témoignage d'un retenu. Ils ont éteint toutes les caméras, ils ont cassé toutes les portes alors que nous on dormait. On s'est réveillés sous le choc. Il y a un mineur avec nous, ils sont rentrés dans sa cellule, ils ont cassé la fenêtre et ils l'ont tapé parce que comme c'est un mineur, ils disaient qu'il allait balancer. Ils l'ont tapé, ils étaient tous sur lui. Une personne, ils l'ont tapé au visage, un autre, ils lui ont cassé la main. Dans plusieurs cellules, ils sont rentrés à 5, ils ont mis les gants, ils ont éteint leur caméra, ils ont sorti leur barre. Un policier a cassé la fenêtre en tapant dessus. Un flic a sorti son arme, il a dit « je vais tirer sur tout le monde, bande d'enculés ». Nous, on a gardé le calme, on savait qu'ils venaient pour provoquer, pour qu'on s'énerve et pour ramener quelqu'un à l'isolement. Ils étaient tous bourrés, ils puaient l'alcool. Donc, suite à ces événements, les retenus du CRA de Vincennes se sont mis en grève de la faim. D'abord les retenus du bâtiment 2A. Et c'est dans ce contexte qu'a été organisé un parloir sauvage par des soutiens dimanche matin qui s'est transformé en manifestation réunissant 80 personnes aux abords du CRA pour crier aux retenus du soutien. Et cette manifestation a été violemment refoulée par les policiers un peu paniqués. 4 personnes ont été interpellées, dont au moins une blessée. Et suite à cette manifestation de dimanche matin, la grève de la faim s'est étendue à l'ensemble du CRA de Vincennes, puisque donc c'était dans un seul bâtiment auparavant. La grève de la faim continue aujourd'hui. Il y a un retenu qui a été placé en garde à vue aujourd'hui parce qu'il est ciblé pour participation et organisation du mouvement. Donc on continue à soutenir les retenus du CRA de Vincennes et on vous tiendra informé des suites de leur mobilisation.
On va refaire une petite pause musicale pour se remettre de toutes ces informations. Ce sera donc d'Instinct, un rappeur Gilet Jaune, et le titre s'appelle Gilet Jaune.
La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un frein, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise, que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Elysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés d'un masque à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chassent de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés, enfants en bas âge et personnes âgées. Ils en profitent pour tout gazer. Les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues. Escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hure, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là, planté devant les flics, et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la magnifique, tu vois les flics se ganter. Deux minutes après, tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés. Le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y'a aussi des flics déguisés au matin déguisés qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle même paraît être la marionnette du mal qu'il inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé c'est propagé dans le monde entier, faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier?
Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2, c'est le Canu Info du lundi 29 janvier 2024. Et on passe maintenant au
local.
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 Au local, on va d'abord parler de la crise à Franprix.
Et oui, ce vendredi, des agents de sécurité employés par les Franprix de la métropole de Lyon ont effectué une descente dans trois magasins pour récupérer en nature leur salaire non payé. En effet, ça fait près de deux mois que 5 Franprix franchisés de la métropole lyonnaise, donc dans le 1er, le 7e, le 8e et à Vénissieux, qui sont complètement déserts à la fois de leurs clients mais aussi de leurs aliments, puisque la dernière livraison daterait de début décembre. Alors les magasins de la région enregistrent 90% de chiffre d'affaires en moins sur le mois de décembre 2023 par rapport à 2022. Les rayons sont vides, les frigos sont éteints, les salariés attendent désespérément leur salaire et ce depuis 50 jours. Ils ont perçu seulement un acompte de 300 euros. Donc ces magasins, ils sont gérés par l'entreprise Onyx à 51% et l'entreprise semble avoir complètement disparu, plus de traces d'elle sur internet. À noter que l'an dernier, deux autres Franprix avaient fermé à Saint-Priest et à Valence après un an d'ouverture. On espère que ça se soldera par une victoire des salariés, au moins pour récupérer leur salaire et leur prime, leur 13e mois qu'ils attendent toujours depuis 50 jours.
Et un petit point sur un pote proche conseiller de Wauquiez.
Avez-vous déjà entendu parler d'Emmanuel Ferrand ?
Non.
Eh ben, Emmanuel, et non.
Non enfin,
eh
ben, si, oui. Mais...
Il est éleveur et céréalier, mais aussi conseiller régional de l'Allier, délégué au Fonds européen agricole. Alors, vous serez peut-être étonné de retrouver Emmanuel dans une vidéo de com qui assure le service après-vente du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est, je vous le rappelle, présidé par notre cher
Laurent Wauquiez.
Dans cette vidéo, Emmanuel vante le succès de la politique agricole régionale. Mais alors pourquoi l'élu de l'Allier défend une politique qui repose essentiellement sur la compétence des régions à distribuer, coup-ci, coup-ça, des subventions européennes ? À la fois présent sur les listes de Wauquiez et dirigeant de la FNSEA dans l'Allier, Emmanuel Ferrand est à l'origine donc du programme agricole du président d'Auvergne-Rhône-Alpes, programme qui est tout à fait compatible avec ses propres intérêts d'exploitant et tout à fait compatible avec la ligne libérale qui définit l'agriculture comme un business. Bref, vous l'aurez compris, Emmanuel Ferrand agit en sous-main pour la FNSEA et peut appliquer sa politique productiviste au niveau régional. Il prône, sans se cacher, l'agrandissement à tout prix, l'irrigation, la multiplication des bassines, etc. etc. En outre, en tant que délégué au Fonds européen agricole, Emmanuel Ferrand préside la commission d'attribution des subventions européennes qui dispose d'un budget de 130 millions d'euros par an. Or, chaque projet retenu est noté, puis soumis à décision de la commission de programmation qui est elle-même présidée par...
Laurent Wauquiez.
Eh ben non, et lui-même. C'est Emmanuel Ferrand lui-même qui siège toujours au conseil d'administration de la FNSEA de l'Allier et qui reçoit des subventions européennes pour, par exemple, le GAEC de la Sioule qu'il dirige avec son frère. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit conflit d'intérêts dans l'air, là ? D'ailleurs, exemple. Les frères Ferrand ont reçu très précisément 96 000 euros de la part de l'Europe entre octobre 2020 et octobre 2021. Bizarre. Emmanuel Ferrand a-t-il eu, en tant que conseiller régional, à décider des subventions bénéficiant à sa propre exploitation ?
Non.
Mystère. Dans une enquête menée par le média Mediacité, des journalistes, en épluchant les délibérations du conseil régional, ont trouvé qu'en avril 2021, la commission de la collectivité avait attribué une subvention de 2000 euros au GAEC de la Sioule d'Emmanuel Ferrand au titre d'aides exceptionnelles distribuées aux éleveurs touchés par la sécheresse. Coïncidence ? Je ne pense pas. On retrouve deux autres subventions de 2000 euros financées pour Emmanuel Ferrand pour compenser les sécheresses qui auraient eu lieu en 2018 et 2019. Aides toujours décidées par la commission permanente. Tout ça, ça sent le lisier.
Alors, on va...
Très belle transition vers notre dossier.
C'est vraiment pas mal. Donc là, on va passer donc à notre interview du jour. Alors, vous le savez sans doute, depuis une quinzaine de jours, des agriculteurs et agricultrices bloquent des axes routiers. Les blocages ont commencé en Occitanie, entre autres, mais le mouvement a pris une ampleur nationale depuis une bonne semaine. Ces blocages s'inscrivent dans un mouvement de contestation qui a débuté mi-novembre à l'initiative notamment de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Les JA, c'est une organisation de jeunesse très proche de la FNSEA. Sous le mot d'ordre, on marche sur la tête. On a vu beaucoup de panneaux dans de nombreuses communes rurales de France retourner pour symboliser les injonctions contradictoires dont sont l'objet les agriculteurs.
Et on a entendu beaucoup de revendications, alors parfois contradictoires. On a vu sur les blocages, comme dans les médias, des militants de l'agriculture intensive, des pesticides, des méga-bassines. Une tentative de récupération du mouvement par l'extrême droite, etc. Et surtout, les représentants de ce mouvement, en tout cas médiatiquement, c'est beaucoup les représentants de la FNSEA, donc de l'agrobusiness, co-gestionnaire du désastre social, économique et écologique de la France et de l'Union européenne. Donc nous, pour y voir un peu plus clair, on a souhaité inviter le porte-parole de la Confédération paysanne du Rhône, Antoine Parizet. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Alors depuis le 25 janvier, la Confédération paysanne, elle appelle à participer au blocage avec ses propres mots d'ordre. Alors est-ce que tu peux revenir un peu sur comment cette colère, elle démarre et comment la conf, elle s'y rapporte ?
En fait, la colère, elle est assez multiple. Il y a ce qui s'est passé dans les campagnes avec les panneaux des villes retournées, c'était à l'initiative des JA. Nous, avec la conf, on n'était pas toujours d'accord. Par contre, on était d'accord sur le fait qu'il y a vraiment un problème, quoi. Que oui, on marche sur la tête. il y a une colère de notre côté qui était assez grande suite à la dernière réforme de la PAC qui a littéralement abandonné l'agriculture bio et qui pouvait prendre le virage de la transformation du modèle vers une agriculture paysanne. Elle ne l'a pas pris, c'est toujours plus d'agrobusiness. Et dans les communes, il y avait le sentiment de voir aussi les panneaux retournés, pas remis à l'endroit. Donc ça a créé un sentiment d'exaspération qui fait que le mouvement il s'est lancé aussi un peu tout seul. C'est quand même un mouvement qui part de la base, parce que les rassemblements n'ont jamais été faits à l'appel de la FNSEA, ni même de la coordination rurale au début. Et maintenant, il y a une colère qui est partagée du monde agricole. Après, on est divisé sur certains sujets, unis sur d'autres. Et donc nous, la Conf Paysanne, on rentre dans le mouvement aussi pour dire à tous nos collègues paysans que le problème, c'est la tête qui dirige la FNSEA et que c'est vers eux qu'il faut se concentrer et lutter contre les accords de libre-échange.
Alors justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur les mots d'ordre qui sont portés par la Confédération Paysanne depuis déjà un bon paquet d'années et qui aujourd'hui du coup ressortent massivement?
Le mot d'ordre de façon centrale, c'est la question du revenu, parce que c'est quand on aura sur nos fermes des revenus dignes et suffisants pour tous qu'on pourra transformer le modèle. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de fermes, beaucoup d'exploitations aussi, qui voudraient bien faire autrement, mais qui ne peuvent pas par manque de revenus, ou parce que les revenus sont trop maigres, ou il n'y a pas d'avance de trésorerie. Donc ça, c'est un problème qui unit toutes les fermes, qu'importe leur façon de produire. Après, il y a des fermes, qu'on va appeler des exploitations, qui vivent très bien. Je veux dire, on connaît des fermes qui sont à 60 000, 70 000 euros de revenus annuels, enfin, parce que dans ce système mondialisé, elles sont accompagnées, encouragées, subventionnées, pour aller prendre des marchés à l'export, etc. Les fermes que nous, sur lesquelles on travaille, c'est des fermes qui prennent de plein fouet les mesures de libre-échange, la concurrence déloyale. Tout le monde constate, pour parler des fruits et légumes, qu'on va dans un magasin, le fruit et légumes étranger, il est systématiquement moins cher que celui produit en France. C'est ça, le problème, il est là, en fait, quoi. Et nous, c'est ça qu'on dit à la Conf Paysanne, c'est le problème, il est là. Le problème, il n'est pas dans la sortie du glyphosate, le problème, il est dans les normes qui devraient nous protéger, qui font du tort, qui empêchent de changer, et on est toujours menacé par ces concurrences déloyales. Là-dessus, on a un terreau commun entre toutes les fermes en France, tous les paysans, et c'est sur ce terreau-là que nous, on milite, on s'engage pour dénoncer la tête de la FNSEA qui, elle, justement, développe une agriculture tournée vers l'export.
Vous, c'est quoi un peu le type d'agriculture, d'élevage que vous défendez à la Confédération Paysanne?
En fait, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais ça reste une agriculture très traditionnelle, en fait, quoi. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui vise l'autonomie, donc l'achat au minimum d'intrants extérieurs à la ferme, du moins d'intrants dont on n'a pas besoin de pétrochimie pour les produire. Après, par exemple, sur les circuits de vente, ça a peu d'importance. Qu'on vende en local, qu'on vende dans des circuits plus grands, en coopérative, etc., c'est pas le problème. Le problème, c'est comment on produit. On produit de façon résiliente, autonome, en fait, avec des semences qui nous appartiennent à nous, qu'on peut ressemer sans OGM, etc. L'idée de la Conf Paysanne, elle est là. Et cette agriculture-là, elle est très largement partagée, en fait, par nos collègues paysans en France, mais elle est très largement minorée par ceux qui prétendent la représenter, les agriculteurs français.
Tu parlais des normes tout à l'heure. Alors, il y a les normes écologiques, tout ça, mais est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce qui... On a vu beaucoup d'agriculteurs qui s'attaquaient à soit au contrôle. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment ça pèse sur les agriculteurs ici?
Alors, en fait, par rapport aux normes, il y a une façon très claire d'arriver à comprendre le problème, et justement la sortie, c'est que les normes, c'est l'issue pour arriver à protéger le revenu des agriculteurs. Quand vous achetez par exemple un reblochon, c'est une AOP, donc c'est une appellation d'origine protégée, donc pour qu'elle soit protégée, elle obéit à des normes, pas d'ensilage, etc., de maïs pour faire ce lait-là. Qui fait qu'à la fin, le prix du lait, au lieu d'être payé 40 centimes comme il est payé là en coopérative en ce moment, il est payé 80 centimes. Donc c'est bien par ces normes-là qu'on arrive à améliorer la qualité, défendre les revenus, en fait. Et ces normes-là, c'est aussi des normes environnementales, quoi. Travailler sans ensilage, etc. Donc en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas se tromper de cible, quoi. Il y a des normes qui sont justement l'issue pour qu'on puisse arriver à avoir des revenus. Maintenant, ce qu'il faut justement, c'est que les produits qu'on importe, qui sont en concurrence avec les nôtres, ils soient protégés. On soit protégé de ça, en fait. Donc c'est-à-dire, nous, on propose des prix minimums d'entrée. C'est-à-dire que tout produit importé qui est vendu en France, il ne peut pas être vendu moins cher que le coût de production. Ça se décide en filière, c'est très facile à faire. Enfin, on pourrait le faire. Pendant les Egalim, ils avaient parlé de prix plancher, c'est un peu la même idée. Mais voilà, l'idée, c'est de prendre un peu ce modèle d'AOP pour la protection en fait, des revenus et pour la transformation du modèle agricole.
Alors, peut-être rappeler rapidement ce que c'est la loi Egalim.
Ouais. C'est les états généraux de l'alimentation. Bon, je veux dire, ça reste une mascarade, enfin une de plus, enfin de la Macronie, qui était fait pour travailler sur le revenu des agriculteurs. Sauf qu'il y a cette mascarade, elle est déjà dans le fait que je crois que les gouvernements successifs, encore moins celui-là, n'ont pas fait beaucoup de preuves de volontarisme pour taper sur les doigts de la grande distribution quand elle ne respecte pas les règles. Par contre, pour taper sur les doigts de ceux qui étaient à Sainte-Soline, ils sont très très bien sortis, ça c'était pas un souci. Donc ce grand raout-là, il a servi à brasser du vent, à noyer un peu le poisson pour qu'à la fin, rien change. Quoi.
C'est par exemple la loi Egalim qui a interdit les pailles en plastique.
Oui, voilà. C'est très bien, mais je veux dire, on a des enjeux aussi. On fait du syndicalisme agricole. Nous, on défend un revenu pour les paysans et une transformation de modèle, quoi. Et Egalim n'a pas répondu à ça.
Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu, puisque ça, c'est bon, il y a un problème d'ordre aussi européen qui sont liés notamment aux subventions européennes, à la politique agricole commune. On n'entend quand même pas tant que ça parler de ces histoires de subventions. En quoi c'est un problème, la manière dont elles sont réparties?
Alors, on va essayer de faire court, parce que c'est un sacré sujet.
Et on a un peu de temps, donc vas-y.
Tant mieux. Pour faire simple, pour parler de la première grande réforme de la PAC, c'est dans les années 90. C'est la première libéralisation du marché. Ça a fait, par exemple, que les fruits et légumes n'avaient plus de taxes de barrières douanières en Europe, et que, du coup, ce qui faisait le prix de vente, c'était le coût de production. Donc vous comprenez bien, quand il y a un SMIC à 200 euros dans un pays et un SMIC à 1100 euros dans l'autre, le coût de production, il n'est plus le même. Donc c'était une première étape dans la concurrence déloyale que nous, on dénonce depuis 30 ans. Elle a eu pour conséquence la disparition drastique des maraîchers arboriculteurs, enfin horticulteurs en France. L'horticulture a pratiquement disparu, c'est tout en Hollande, les maraîchers, les arboriculteurs dans le sud de l'Europe. Et cette réforme-là, ça a été le début de toutes les autres. Donc dans les années 90, on était exportateur en France de fruits et légumes à 55%. Maintenant, on est importateur à plus de 60%. Donc on voit la bascule qui a opéré. Et tout ça, ça s'est développé avec la fin, par exemple, des quotas laitiers, qui a fait l'agrandissement des fermes, etc., qui a conduit à produire toujours plus pour baisser les coûts. Ça a fait avec la betterave sucrière. Enfin, voilà, c'est toute une longue litanie, en fait, de traités qui font que on a mis en concurrence des paysans alors qu'ils n'avaient pas les mêmes coûts de production. Et en parallèle de ça, pour toucher des subventions, on nous dit à juste titre qu'il faut respecter certaines normes, etc. Mais ce que les paysans y ressentent aujourd'hui, c'est un grand écart entre produire mieux mais produire moins cher. Il arrive un moment où en fait il y a quelque chose qui coince, quoi. Donc nous à la conf, ce qu'on dit, le problème c'est pas produire mieux, le problème c'est produire moins cher. C'est ça le problème en fait. C'est ça qu'on doit dénoncer. Et par rapport à l'Europe, ce qui est super intéressant dans le mouvement maintenant aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est pas les paysans français contre les paysans italiens, etc. C'est pas vrai. En fait, c'est tous les paysans qui sont contre ce système-là. Du moins, tous ceux qui ont été lésés. Et il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus que ce qu'on pense, en fait. Parce que ce que les maraîchers français, ils disent, c'est qu'ils ont pas un problème avec les maraîchers espagnols ou italiens. Ils ont un problème avec la concurrence déloyale. Parce que maintenant, comme il y a des traités de libre-échange qui ont été signés avec le Maroc, les paysans espagnols ont le même problème avec les paysans marocains, etc., etc. Et c'est sans fin, en fait. Donc, les paysans, maintenant, ils sont plus dupes. Ils ont bien compris qu'en fait, que le problème, c'était pas l'agriculture de l'autre pays. Le problème, c'était les grandes distributions, les grandes exploitations qui mettaient en place un modèle dont eux bénéficient et d'autres perdent. Donc nous sommes les perdants des 30 dernières années des politiques de l'agriculture européenne. Maintenant, il faut la changer.
Alors justement, le mouvement, il est aussi, il essaime un peu en Italie, en Allemagne. Est-ce que tu peux nous en parler, des mobilisations européennes?
Oui, il y a les Belges aussi qui s'y mettent. Il y a des notes d'espoir aussi là-dedans. C'est que par exemple, il y a eu le premier grand mouvement de colère dans les Pays-Bas l'année dernière, qui aboutit sur une liste type extrême droite qui s'appelait Agriculture Citoyen, qui voulait rassembler les agriculteurs, les très grandes exploitations de Hollande, avec les citoyens, donc sur un délire complètement extrême droite, et ça n'a pas marché. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des unions dont on nous vend beaucoup, beaucoup, beaucoup le succès et qui font des flops parce que les paysans sont pas dupes, justement, en fait. Donc ce qui se passe là, ce qui se passe en Allemagne, c'est parti autour du GNR, Mais les Allemands vont avoir les mêmes problèmes avec la concurrence des céréales, notamment avec les pays de l'Est et la Russie, qui a bien compris que le réchauffement climatique libérait des terres arables pour les prochaines années. Donc on voit bien qu'il y a un système de libre-échange en fait, qui pose problème, quoi. Et le constat, il est unanime. Et justement, au niveau européen, la grande crainte qu'il y a maintenant, c'est le traité, c'est le Mercosur, qui est l'énorme traité, en fait, avec l'Amérique latine, dont on nous dit non, mais on va l'abandonner. Ils l'ont déjà dit il y a 5 ans, puis finalement, ils sont revenus, etc. Donc, on voit bien qu'ils essayent de noyer le poisson. Mais là, on a besoin de paroles claires, quoi. C'est-à-dire, le Mercosur, c'est terminé, parce que cet accord-là, c'est la porte ouverte à la viande, en fait, argentine, notamment, mais pas que. Ils ont signé le CETA, peut-être qu'on y reviendra aussi, mais c'est la mort de l'élevage bovin en France, quoi. Et l'élevage bovin, c'est pas rien en France, c'est vraiment énorme. Donc du coup, là, on est face à un cas où maintenant tous les agriculteurs européens ont bien compris que si les syndicats, enfin le syndicat majoritaire en France, la FNSEA, mais son allié européen, c'est la COPACO-GECA, voilà, signait cet accord, c'était la mort de l'élevage, en fait. Et là, si c'est la mort de l'élevage, c'est la mort de toute une vision de l'agriculture dont on partage très largement, à savoir des prairies naturelles, etc. Enfin, il y a un aspect très identitaire, mais dans le bon sens du terme, qui dit que nous, on se sent menacés, en fait. Et donc, nous, ce qu'on dit à la conf, c'est qu'on est menacés par la tête des dirigeants des syndicats européens.
Qui co-gère ce modèle agricole depuis toujours et qui participe largement.
Bien sûr, mais je veux dire, ils le co-gèrent, mais ils ont fait... dans les années 90, pendant les premières réformes de la PAC, en France, la FNSEA a écrasé les représentants, en fait, par exemple, des fruits et légumes dans leur propre syndicat, quoi. Ça s'appelle FELCOP. Enfin, je veux dire, il y a eu des orientations qui ont été prises. Et maintenant, ce qui se passe à la tête de la FNSEA, c'est pour ça que Rousseau est président, c'est quand ce qui compte, c'est les céréales, c'est la grande culture. Parce qu'ils considèrent qu'en fait, l'élevage doit disparaître en partie pour être remplacé, en fait, notamment par la viande cellulaire. C'est la FNSEA qui a fait signer au Sénat en fait des textes de loi encourageant, enfin subventionnant la recherche sur la viande cellulaire. Donc l'enjeu, il est là, en fait. Et ça, les paysans, ils l'ont très bien compris. Donc encore une fois, ce qu'on voit, c'est que la tête de la FNSEA essaie de récupérer un petit peu le mouvement en concentrant sur Paris, alors qu'en fait, la contestation, elle vient de régions beaucoup plus, enfin beaucoup moins céréalières, beaucoup plus proches de l'élevage, des fruits et légumes, etc.
Alors oui, justement, on voulait un peu parler de ça là, dans ce mouvement, médiatiquement parlant en tout cas, ceux et celles, mais surtout ceux d'ailleurs qui occupent les plateaux de télévision, les soi-disant porte-parole de la mobilisation, sont souvent des représentants de la FNSEA, des jeunes agriculteurs qui sont souvent interviewés, et aussi, pas mal en tout cas pour certains médias tenus par des milliardaires, des
représentants...
Ah, bah, CNews et BFM TV par exemple. On voit aussi pas mal l'extrême droite présente, en tout cas qui essaye de récupérer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que t'en penses et comment on essaie de combattre un peu cette surreprésentation médiatique de ces organisations-là?
Moi, je crois qu'en fait, on est des militants syndicaux et on se concentre en fait sur les combats syndicaux parce qu'on voit le RN qui a essayé de faire du bruit un peu de partout en Lot-et-Garonne parce que la coordination rurale qui reste assez proche de l'extrême droite était un peu à l'initiative aussi du mouvement. Cette récupération-là, elle n'a pas si bien marché que ça, en fait. C'est pas vrai. Enfin, je pense que là, en fait, nous, ce qu'on voit, ce que le terrain il dit, c'est qu'on est d'accord entre nous, on est d'accord sur certaines normes, enfin, sur certains combats à mener, et que la récupération politique, elle a assez peu d'importance. Et en fait, pour l'instant, on les laisse parler. Enfin, ils parlent, mais dès qu'on la conf, on a l'occasion de prendre la parole, on est toujours là pour rappeler que le Rassemblement National, comme la droite, comme la gauche, à voter les accords de libre-échange, c'est quand même la base, et les exemples sont multiples. L'ancien président des JA, Jérémy De Cercle, est député européen Renew, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il a voté ces accords-là alors qu'il représentait les JA avant. Donc il y a un moment où ce ras-le-bol-là, il existe en fait. Et il suffit qu'on arrive un petit peu plus à le dire, je te l'accorde, à la télé, à la radio, pour que ça donne du crédit au combat qu'on mène en fait. Mais on va y arriver.
Et alors, du coup, à la suite de ce mouvement, Gabriel Attal a fait des propositions. Alors déjà, est-ce que tu peux un peu nous parler de ces propositions? Nous, on a un peu l'impression que c'est un blanc-seing à l'agriculture intensive, aux pesticides, aux méga-bassines, des choses contre lesquelles ici on lutte. Alors, est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus?
Eh bien, dans les annonces qu'il a annoncées, bon, ils ont dit qu'ils revenaient sur l'augmentation donc, du GNR, c'est le gazole pour les tracteurs, accord qui avait été signé.
Oui, négocié par la FNSEA.
Oui, mais parce que le but, quand ils ont signé ça, c'était en remplacement, enfin, en augmentant la part d'agrocarburant dans le GNR. Et cet accord-là, il bénéficiait au groupe numéro 1 français qui s'appelle April, qui est dirigé par Arnaud Rousseau de la FNSEA. Voilà, ouais, comme
le
ça,
fameux.
Les choses sont claires.
Ils savent bien se placer à la FNSEA, visiblement, tant localement que nationalement.
Donc, c'est, voilà, ces accords-là. Après, sur les premières annonces, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est du vent. Ça, c'est à peu près certain. Ce qui va être intéressant, c'est ce qui va être dit demain. C'est pour l'instant, évidemment que c'est un blanc-seing à l'agriculture industrielle. Après, je veux dire, en tant que militants syndicaux, et un petit peu démocrates aussi, on sait reconnaître la légitimité de la Chambre d'agriculture. Elles sont tenues par les FNSEA pratiquement partout en France. Donc ça, on ne va pas le contester. Par contre, ce qu'on conteste, sur quoi on va toujours appuyer, c'est de dire que la tête de la FNSEA, elle, ne représente pas sa base. En fait, c'est ça qui compte toujours. Enfin, le syndicalisme, en tout cas, il est là pour ça, c'est d'unir les travailleurs. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais sur les annonces, nous, comment dire, tant qu'il n'y aura pas une annonce claire de l'arrêt du Mercosur et un moratoire sur le CETA et l'accord avec la Nouvelle-Zélande, bon, je veux dire, la lutte continuera. Et puis, de toute façon, on continuera à appuyer sur le fait qu'ils sont plus crédibles. Enfin, ils sont plus crédibles aux yeux des agriculteurs.
Et ça, ces traités de libre-échange, c'est vraiment pour vous le nerf de la guerre pour l'augmentation des revenus des paysans.
De toute façon, c'est le modèle. C'est le modèle économique. Donc, quand on discute de telle ou telle norme environnementale, en fait, c'est à la marge du débat. C'est ça la difficulté ou la récupération politique des libéraux, elle est là. Elle est de dire on va parler des normes environnementales pour pas parler du fond du problème, en fait, qui est le modèle économique qui fait que depuis les années 90, on a choisi les céréales et l'élevage plutôt que les fruits et légumes, et que à partir de maintenant, on est en train d'abandonner l'élevage au profit des céréales, des protéagineux et oléagineux.
Ouais, moi, je voulais juste que tu l'as pas mal cité, donc peut-être pour expliquer, mais très rapidement, tu parlais du CETA. Est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots, quelques phrases, pourquoi c'est à combattre ce truc-là ?
Parce que c'est le même principe, en fait. C'est quand ils font des accords de libre-échange, le CETA, c'est notamment sur la viande, c'est déjà un premier accord sur la viande bovine, en fait. Quand ils font des échanges, ils disent en gros, on va importer tant de milliers de tonnes de viande sans barrière douanière. Et en échange, on va exporter tant de millions de litres de pinards et de fromage. Donc en fait, ce que la FNSEA, en tant que co-gestionnaire de ces trucs-là avec l'État, elle dit, bon, bah alors en fait, on va sacrifier le bœuf charolais, mais on va dire aux Bordelais, vous êtes en crise, bah on va vendre des bouteilles, etc. Donc ce qu'ils font, ce n'est pas un travail de justice en fait, pour les agriculteurs, ce qu'ils font, c'est un travail de lobbying, en fait, en fonction de plus ou moins certaines fédérations, etc. Et le CETA, c'est ça, c'est de la viande bovine contre du pinard.
Ils assurent la bonne santé du capital aussi, quand même.
Oui, c'est
ça. Par la même occasion.
Alors peut-être, il nous reste encore quelques minutes, on a quand même l'impression, tu nous diras si on se trompe, qu'il n'y aurait pas une politique du deux poids deux mesures en fonction des actions qui sont faites par les agriculteurs, par rapport à des gens qui sont allés à Sainte-Soline ou autres éco-terroristes. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Comment ça se fait?
Ah, c'est raide, c'est quand même très raide à entendre. C'est très très raide à entendre, notamment qu'à Sainte-Soline, ça a largement été écarté. Des images d'implantation, mais en fait, il y avait des agriculteurs à Sainte-Soline.
Et il y a eu France, des tracteurs sur l'autoroute.
Donc en fait, en tout cas, il y a une leçon qu'on tient, c'est qu'il faut qu'on récupère des drapeaux de la FNSEA pour les prochaines manifs.
C'est valable pour toutes les manifs, peut-être.
Ouais, voilà, après, adhérer à la FNSEA et je prenais des drapeaux. Mais c'est vrai que c'est vraiment très très raide, parce qu'il y a ce blanc-seing-là. Il est d'autant plus violent qu'en fait, nous, en tant que conf, on est un syndicat représentatif et légitime, en fait, normalement, aux yeux du pouvoir. Et ça, on va pas dire que de la part de Darmanin, c'est de l'ignorance, mais c'est un mépris, je veux dire, qui en rajoute une sur tous les autres mépris qu'il peut avoir, et qui est, on le garde en travers de la gorge, mais je pense que tout le monde a bien compris le message, et croyez-moi, pour les prochaines mobilisations, on va trouver d'autres méthodes. On va se faire passer pour la FNSEA, et je pense que ça ira beaucoup mieux.
Nickel.
Alors peut-être pour terminer, on sait qu'il y a des choses qui s'organisent dans le coin. Alors qu'est-ce que c'est les perspectives là, immédiates et à plus long terme, et comment on peut soutenir, et qu'est-ce qui va se passer demain, par exemple, dans la région?
Du coup, demain, pour la conf, mais pour tous les autres paysans aussi, c'est énormément de rassemblements. Donc, si vous voulez vous mettre au vélo, c'est l'occasion, parce que alors là, ça va être bloqué vraiment de partout. Nous, la conf, on sera présents, paysans, tracteurs, citoyens, amis, copains, collègues, au péage de Saint-Quentin-Falavier. En fait, donc, toute l'autoroute sera bloquée, donc on sera justement au niveau des au niveau du péage, tout autour des entrepôts logistiques d'Intermarché notamment, mais pas que, qui importent justement des produits qui nous font défaut. Donc c'est important d'être là. Il y aura nos collègues aussi des FDSEA, enfin locales, qui seront aussi tout le long de l'autoroute. Donc on espère aussi pouvoir aller causer avec ces gars-là pour partager un peu des points de vue, quoi. Et puis pour faire changer un peu certains de bords. Il y a eu déjà pas mal d'échanges, de discussions qui ont été faits. Il y a déjà eu beaucoup, d'ailleurs, de messages qui ont été passés de la part de la tête de la FNSEA pour dire n'allez pas rencontrer les autres syndicats. Mm-hmm. Donc nous, on compte bien aller rencontrer aussi les autres.
Faire l'inverse,
parce ouais. que justement, il y a des choses à créer. Et donc le rassemblement de demain, c'est à partir de 8h. Paysans, citoyens, syndicalistes, tout le monde est bien sûr le bienvenu, parce qu'on reste un syndicat d'ouverture. Parce que le projet de la Confédération Paysanne, il est syndical, mais il est aussi politique. Et donc, on invite bien sûr tout le monde à venir. Après, pour nous, ce qui compte le plus, c'est d'avoir nos messages en tant que paysans qui soient bien diffusés, qui soient bien représentés, parce que nos temps de parole et de présence dans les médias sont très courts, et on sait qu'on pourra avoir de la parole demain. Elle sera reprise comme elle sera reprise, mais en tout cas, il faut qu'on cause, il faut qu'on se fasse entendre, parce que sinon, personne ne nous laissera la parole.
Ok, est-ce qu'on peut suivre un peu, vous avez un site internet, est-ce qu'on peut vous suivre quelque part?
Ou un réseau social
quelconque.
Alors là, on n'est pas des grands communicants, enfin, on reste un syndicat de paysans, mais je sais qu'il y a un Facebook, etc. Enfin voilà, mais...
Bon, en tout cas, pour demain, il suffit de rejoindre le péage de Saint-Quentin-Falavier, n'importe quelle heure de la journée, après 8 heures.
On y est pour 24 heures.
Pour venir vous rencontrer, discuter avec vous et suivre un peu ce qui se passe.
Et c'est toute la conf régionale, donc ça débarque de toute la région.
Et évidemment qu'on donnera les infos aussi sur les ondes dès qu'il y aura des choses à annoncer. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu
pour l'invite.
à nos questions.
C'était mieux qu'à BFM.
on espère. Et nous, tout de suite, on passe au traditionnel agenda.
Et on passe au traditionnel agenda. Donc, après le rendez-vous de demain au péage de Saint-Quentin-Falavier, que vous pourrez retrouver sur la page Facebook Confédération Paysanne du Rhône, mercredi, il y a la rentrée de l'Amicale du Combat Libre à 19h à l'ECG 47 rue Béchevelin. Jeudi 1er février, il y a grève et manifestation de l'éducation nationale avec une manifestation à 14h place Guichard. Et puis vendredi, il y a une conférence autogestion, horizontalité, démocratie au travail. C'est quoi ? On en est où aujourd'hui ? 5 ans après, on rebat les cartes.
Waouh !
De 9h à 16h, mais je ne trouve pas le lieu.
Et surtout, après, il y a une superbe soirée à l'Amicale du Futur, au 31 rue Sébastien Griff. C'est en soutien à un lieu qui s'appelle le Jusqu'ici, qui accueille des collectifs, des assos, des permanences, notamment du DAL 69. Bref, un lieu essentiel dans le quartier de la Guillotière pour nos luttes, et donc qui a besoin de sous pour pouvoir continuer à exister, tout simplement. Et donc le Jusqu'ici vous propose un superbe repas mexicain avec des tacos, du mollet et plein de desserts et de cocktails. Donc on vous invite nombreux au 31 rue Sébastien Griff à partir de 19h.
Et il y aura DJ Trashensbull ici, les exceptionnels DJ Trashensbull, à partir de 22h. Venez vous enjailler sur le dance floor.
Ah oui, et c'est donc bien deux rendez-vous distincts pour l'éducation. Il y a celui de jeudi à 14h place Guichard, et il y a aussi vendredi à 9h devant l'Académie du Rhône, rassemblement pour défendre l'éducation prioritaire en particulier.
Et samedi, probablement un rassemblement ou une manif pour la Palestine, pour Gaza. On vous invite à suivre sur Rébellion, comme d'habitude, toutes ces infos.
Et comme on vous l'avait annoncé, il y a aussi une manifestation pour l'abrogation de la loi immigration qui aura lieu, pareil, à 14h30, place Bellecour, le 3 février.
Et quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine.
Pour la semaine prochaine.
Pour un nouveau Cagnon Info.
Exactement.
En mixité subie.
Ou dans la rue. D'ici là, allez, on vous laisse avec les bandes continues. Bonne soirée.